RCF.
Les accidents vasculaires cérébraux, que l'on appelle couramment AVC, sont fréquents et graves, laissant parfois des séquelles et un handicap définitif. Même si leur traitement d'urgence a beaucoup progressé, il est encore plus important de les prévenir. Mon invité d'aujourd'hui est le docteur François Rouanet, qui, l'an dernier, nous avait fait prendre conscience des progrès conjoints des services d'urgence, de l'imagerie médicale, de nouveaux traitements et même de la télémédecine, permettant de sauver des vies et de diminuer le risque de séquelles. Il a accepté de revenir nous parler de prévention.
RCF, Dominique Jobert.
Bonjour François Rouanet.
Bonjour.
Alors vous êtes neurologue au CHU de Bordeaux et vous êtes en charge de la coordination des AVC en Aquitaine, où vous travaillez dans l'unité neurovasculaire à l'hôpital Pellegrin. Qu'est-ce qu'un accident vasculaire cérébral et comment peut-on décrire son mécanisme?
Alors un accident vasculaire cérébral, c'est un problème au niveau de l'irrigation du cerveau, de la circulation et notamment au niveau des artères. Le plus souvent, c'est une artère du cerveau qui se bouche. Et comme le cerveau est un organe qui a besoin d'être irrigué en permanence parce qu'il n'a aucune réserve ni en oxygène ni en sucre, dès que l'artère se bouche, les neurones, les cellules nerveuses ne reçoivent plus l'énergie nécessaire pour travailler. Et c'est pour ça que les symptômes viennent brutalement. Un AVC, ça s'installe toujours d'un seul coup. Et donc la plupart du temps, c'est une artère qui se bouche. 4 fois sur 5, c'est comme ça. 80% des cas, c'est une artère qui se bouche. On appelle ça aussi infarctus cérébral ou accident ischémique. Et 20% des cas, c'est l'inverse. C'est une artère du cerveau qui se déchire.
Et alors, les cellules nerveuses qui ne sont plus irriguées, qui, comme vous nous dites, qui n'ont plus d'oxygène, qui n'ont plus les éléments énergétiques nécessaires, elles meurent.
Alors, elles peuvent résister à cette privation d'énergie pendant quelques minutes ou quelques heures, mais pas beaucoup plus. Donc, c'est tout l'enjeu des filières de prise en charge en extrême urgence de ces patients. Parce que depuis quelques années maintenant, vous l'avez dit en introduction, on a fait des progrès, notamment pour arriver à déboucher les artères qui se sont bouchées à cause de ces caillots, soit en administrant un médicament qui est, on appelle ça un thrombolytique, ou faire une thrombolyse, c'est un médicament qui va faire fondre le caillot. On peut comparer ça à du desktop, c'est le desktop des neurologues. Et puis, la deuxième technique qui est plus récente, qui remonte à 2015 maintenant, c'est ce qu'on appelle la thrombectomie, et on peut combiner les deux traitements. La thrombectomie, ça consiste à piquer dans les artères, au niveau du pli de laine, et à remonter un petit cathéter, un petit tuyau, pour aller attraper le caillot par l'intérieur des vaisseaux et déboucher mécaniquement l'artère. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très efficace, puisque thrombolyse et thrombectomie combinées, on arrive à déboucher l'artère dans 80% des cas, mais pour que ce soit utile pour le patient, il faut que ce soit fait très tôt, et en tout cas avant la sixième heure. Et plus tôt on le fait, mieux c'est. Si on peut traiter le malade à la troisième heure après le début des signes, c'est mieux que de le faire à la quatrième, et 4, c'est mieux que 5, et chaque minute gagnée, on estime qu'on évite au patient de perdre 3 millions de neurones. C'est 3 millions de neurones que l'on perd chaque minute avec l'artère bouchée dans le cerveau.
Donc là, on a parlé du mécanisme et du traitement qui découle de ce mécanisme, mais quelles sont les causes? Qu'est-ce qui aboutit à cette artère bouchée, en quelque sorte?
Les causes sont multiples. Ce qui peut occasionner la formation d'un caillot, ça peut être soit des plaques de cholestérol sur les artères, ce qu'on appelle l'athérosclérose, qui est liée au vieillissement, à l'hypertension artérielle, au diabète, à l'excès de cholestérol ou à la consommation de tabac. Ça peut être des problèmes de troubles du rythme cardiaque. Quand le cœur est irrégulier, il se contracte plus de façon complète et les cavités du cœur ne sont pas vidangées en totalité et ça peut aboutir à la formation d'un caillot à l'intérieur de ces cavités qui, par la suite, peut partir dans la circulation et aller boucher une artère au niveau du cerveau. 20%, un AVC sur 5 est dû à cette arythmie du cœur. Après, ça peut être tout un tas d'autres mécanismes, notamment chez les personnes les plus jeunes, parce que les AVC ne touchent pas que les personnes âgées. Un tiers ou un quart des AVC survient avant 65 ans et les mécanismes ne sont pas tout à fait les mêmes à ce moment-là. Ça peut être des anomalies au niveau de la paroi des artères ou une déchirure de la paroi intérieure de l'artère qu'on appelle une dissection.
Il y a des causes multiples que vous êtes donc appelé à prévenir quand on peut, mais peut-être pas, on peut peut-être pas tout prévenir. En tout cas, il faut lutter contre les facteurs des risques. Qui cela touche-t-il, donc, à part la question des âges? Est-ce qu'il y a des personnes plus exposées que d'autres ou des facteurs de risque?
Alors, clairement, ce dont on se rend compte au quotidien dans les services de neurologie qui s'occupent de ces patients, c'est que l'hypertension artérielle favorise la survenue des accidents vasculaires cérébraux. À peu près 80% des patients qui sont hospitalisés pour un accident vasculaire cérébral ont un problème de tension qui était connu ou pas. S'il était connu, pas forcément très bien traité. L'hypertension artérielle, c'est trop de pression dans les artères. Et trop de pression dans un tuyau fait qu'à la longue, ce tuyau va s'abîmer. Et il va s'abîmer de deux façons, soit comme le tuyau d'arrosage du jardin, trop de pression va éclater le tuyau et ça va donner un saignement dans la tête. Mais heureusement, les artères ne sont pas comme des tuyaux d'arrosage du jardin, hein, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et quand il y a trop de pression dans les artères, l'artère, pour se défendre contre cet excès de pression, va épaissir sa paroi. Et malheureusement, cet épaississement va se faire surtout vers l'intérieur de l'artère, ce qui fait que petit à petit, le diamètre de l'artère va se réduire à cause de l'hypertension artérielle. Et c'est comme ça que l'hypertension artérielle débouche sur l'occlusion de petits vaisseaux, notamment les artères les plus profondes du cerveau, que celles qu'on appelle des capillaires, qui sont très fins et qui sont très sensibles à ces mécanismes de l'hypertension artérielle et qui peuvent être bouchés à cause de l'hypertension.
Les personnes ne savent pas toujours qu'elles ont une hypertension, et puis dans la pensée commune, on pense quelquefois que la tension, c'est un coup de tension, c'est-à-dire que ça pète d'un seul coup. Ça peut survenir à l'occasion d'un stress, d'un effort.
Alors que la tension, la pression dans les artères monte quand on fait un effort, quand on vient de marcher rapidement, de monter un escalier ou de courir, c'est normal, c'est une adaptation. La tension, celle qui est considérée comme anormale, c'est à partir du moment où c'est surtout le premier chiffre qui est le plus délétère pour les artères, parce que c'est le moment où le cœur vient de pomper et c'est là qu'il y a le maximum de pression dans les artères. Et ce premier chiffre, il doit être en dessous de 14 cm de mercure ou 140 sur les appareils électroniques. Donc, et on est hypertendu à partir du moment où trois mesures successives dans de bonnes conditions, c'est-à-dire au repos depuis au moins 10 minutes, voire même allongées, ont montré que la personne avait plus de 14. Et dès qu'on a 15 plusieurs fois, ben, on est hypertendu. Il faut prendre ça en compte pour éviter les conséquences que cette hypertension aura sur le long terme. Hein. La prévention de l'AVC, c'est des dizaines d'années avant que ça se passe. Le maximum des AVC survient aux alentours de 70 ans. C'est dans la tranche d'âge des 30-40 ans qu'il faut agir. Peut-être même avant, on pourra en reparler, notamment chez les jeunes femmes, et la problématique de l'association tabac-pilule qui augmente le risque d'AVC chez ces jeunes femmes.
Donc on va y revenir après, mais déjà, on sent bien, d'après ce que vous nous dites, qu'une bonne surveillance de la tension et de son rythme cardiaque par son médecin généraliste, c'est déjà un premier pas dans la prévention.
C'est capital, parce qu'on est certain que ça marche à condition de le faire comme il faut, de le faire sérieusement, et que les personnes à qui on propose un traitement ou de modifier un petit peu leur hygiène de vie, justement pour éviter de s'exposer à un risque ultérieur, accepte de le faire. Quand on est hypertendu, la plupart du temps, ça va déboucher sur des médicaments qu'il faudra prendre régulièrement, puisque l'hypertension, on la guérit pas. On la contrôle, mais on ne la guérit pas. Donc ce sont des malades qui devront prendre les médicaments toute la vie durant. Mais c'est important de leur expliquer. Mais la première étape avant de donner les médicaments, c'est peut-être aussi d'inciter les gens à avoir une activité physique plus régulière, de la marche à pied, 30 minutes de marche à pied tous les jours. Et déjà, une bonne façon de faire baisser sa tension, pas la tension à l'effort, hein. On ne va pas prendre la tension juste après les 30 minutes de marche, mais vraiment au repos.
Alors, quelle est la fréquence des AVC en France et en Aquitaine? C'est fréquent.
C'est extrêmement fréquent. On estime qu'en France, il y a à peu près 150 000 AVC tous les ans. Alors 150 000, ça fait la taille d'une ville comme Pau ou à peu près. Pour ceux qui vont au stade, c'est deux fois le Stade de France plein pour la finale du tournoi des Six Nations France-Angleterre. Donc c'est deux fois le Stade de France. Pour la Nouvelle-Aquitaine, on estime que, enfin en 2017, je n'ai pas les chiffres de 2018 encore, mais en 2017, il y avait deux AVC par heure en Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est vraiment très fréquent. C'est grave parce que ça a des conséquences sur la vie de la personne. Parce que souvent, il y a des séquelles qui restent après l'accident vasculaire cérébral, mais c'est aussi malheureusement une maladie qui peut être mortelle, puisque à peu près 10% des patients risquent de mourir après l'accident vasculaire cérébral dans les 15 jours ou 3 semaines qui suivent l'événement initial.
Le docteur François Rouanet, neurologue, répond aujourd'hui à nos questions sur les accidents vasculaires cérébraux et leur prévention.
RCF, Dominique Jobert.
L'année 2018 qui vient de se terminer a été très riche en événements autour des AVC et de leur prévention, en particulier la journée européenne en mai et la journée mondiale fin octobre. Le thème de l'année était « AVC, en parler ». C'est donc mal connu.
Votre formulation est un peu excessive ou exagérée, ou dépasse un peu la réalité, parce que ça fait quand même quelques années maintenant qu'on essaie de vulgariser l'AVC, les signes, comment le reconnaître, hein, la bouche de travers, du mal à parler, une faiblesse du bras ou de la jambe, que c'est urgent, qu'il faut appeler le 15. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on essaie de profiter de ces journées européennes ou mondiales pour communiquer, mais il faut communiquer tout le temps, hein, sans arrêt, insister, répéter les messages, et je crois que la population en général connaît de mieux en mieux l'accident vasculaire cérébral, et on le voit à l'hôpital, les gens arrivent de plus en plus rapidement et ont pris conscience de ça. Les derniers résultats d'évaluation ont montré qu'aux urgences de l'hôpital Pellegrin, ici à Bordeaux, plus de 60% des patients qui ont fait un AVC arrivent à l'hôpital avant la troisième heure, donc dans des délais compatibles avec un traitement. Donc ce qui est bien mieux que ce que c'était il y a une dizaine d'années encore.
Moi, ce que vous me disiez la dernière fois, quand on avait parlé du traitement et de l'urgence, c'est que quand vous dites dans un délai de moins de 3 heures, c'est également quelquefois d'assez loin de Bordeaux grâce aux évacuations par hélicoptère et au télédiagnostic, etc.
C'est tout l'enjeu de l'organisation d'un territoire, hein, le territoire qui correspond à celui qui est géré par les agences régionales de santé, celle d'Aquitaine, c'est toute la Nouvelle-Aquitaine, donc ça va du nord de Poitiers à Pau et Bayonne, donc c'est un vaste territoire et toutes les possibilités de traitement ne sont pas accessibles partout. Je pense en particulier à la thrombectomie qui n'est disponible que dans les trois CHU pour l'instant, c'est-à-dire Bordeaux, Limoges et Poitiers, très prochainement à Pau et Bayonne, mais pas pour l'instant, et donc il faut que les patients qui ont besoin de ce type de traitement soient ramenés à Limoges, à Poitiers ou à Bordeaux, et là l'hélicoptère trouve sa place.
Alors justement, on parle d'agence régionale de santé et d'information, et l'agence régionale de santé avait lancé l'an dernier une grande campagne d'information sur ce sujet auprès des médecins et du grand public. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur cette campagne vue de votre point de vue de médecin thérapeute?
Le premier impact de cette campagne, c'est vraiment les délais d'arrivée à l'hôpital qui s'améliorent. Ensuite, la campagne de toute façon elle va être renouvelée, et donc on insiste, pas en plus du message, les signes d'alerte, appeler le 15, vraiment sur la prévention avec deux éléments. Le premier, j'en ai déjà parlé, c'est l'hypertension artérielle. Donc c'est aussi ce que l'on a fait fin octobre sur l'agglomération bordelaise, où on a distribué gratuitement 1000 appareils à tension à des gens avec une notice pour savoir comment le faire soi-même dans de bonnes conditions. Donc ça, c'est vraiment très important. Et le deuxième élément, c'est la détection de l'arythmie cardiaque, puisque je l'ai dit, l'arythmie cardiaque, c'est 20% des AVC. Et donc c'est vraiment très important parce que c'est quelque chose qui devient de plus en plus fréquent avec l'âge. On estime que 8% des gens qui ont plus de 65 ans ont une arythmie cardiaque, et sur ces 8%, il n'y en a qu'à peu près la moitié qui le sait. l'autre moitié ne le sait pas. Comment on détecte qu'on est arythmique? Soit c'est votre médecin qui le trouve ou en se prenant soi-même le pouls. Mais ce que l'on a proposé aussi, c'est de mettre dans les pharmacies de Pessac, mais on va le faire à l'Espar aussi, on va le faire à Arcachon prochainement, c'est de mettre à disposition de tout le monde dans les pharmacies un petit bâton qui permet de faire un mini électrocardiogramme et qui l'analyse automatiquement et qui permet de dire s'il y a ou non une arythmie cardiaque. Et si le bâton détecte quelque chose d'anormal, alors le patient est invité à aller consulter son médecin pour faire un électrocardiogramme plus précis et qui confirmera ou pas ce qui a été détecté en pharmacie.
Oui, donc on descend vraiment sur le terrain et j'avais cette question sur les pharmaciens d'officine à Pessac qui sont impliqués. On fait en gros un diagnostic de risque par un simple contrôle en pharmacie.
On peut aller plus loin encore. Hein. L'avantage des pharmaciens, et on parle beaucoup d'accès aux soins, de déserts médicaux, c'est que malgré tout, les pharmaciens, les officines, il y en a à peu près partout.
Ils sont vraiment au contact immédiat
de la
population.
Ils sont au contact. Ils ont une formation en santé tout à fait valable. Et je crois vraiment que sur des campagnes de prévention, que ce soit pour la vaccination contre la grippe ou la lutte contre l'hypertension artérielle ou la détection de l'arythmie cardiaque, vraiment il faut qu'on arrive à travailler en bonne intelligence de cette façon-là. Il n'y a pas de concurrence. L'intérêt, c'est celui de la population et d'éventuels futurs patients.
Alors, si on veut faire passer maintenant des messages vraiment de prévention en pratique, pour chacun de nos auditeurs, que faire au quotidien pour diminuer son risque d'AVC, en dehors de ce contrôle de tension et de rythme cardiaque dont on a bien parlé?
Arrêter de fumer ou ne pas commencer à fumer, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est se faire prendre la tension au moins une fois par an, ou alors acheter un appareil à tension et se la mesurer soi-même, mais pas tous les jours, hein, de temps en temps, tranquillement, au repos. Se prendre le pouls de temps en temps ou se le faire prendre par son médecin, et puis une activité physique régulière, une alimentation variée avec des fruits, des légumes, enfin de tout, un peu.
Pas de tabac et une alimentation, une vie raisonnable, un peu d'effort.
Un peu d'effort tous les jours, c'est la régularité. Hein, c'est pas non plus s'inscrire dans une salle de sport, hein, c'est la marche à pied, ne pas prendre la voiture pour aller acheter le pain ou le journal, marcher un peu tous les jours. La recommandation, c'est 30 minutes.
Nous sommes aujourd'hui avec le docteur François Rouanet, neurologue, pour parler de la prévention des accidents vasculaires cérébraux.
RCF, Dominique Jobert.
Dans les messages de prévention, il y a aussi ceux qui concernent la prise en charge en urgence de tout signe pouvant évoquer un AVC, puisque là c'est la prévention des séquelles graves. Alors le message pour vous, c'est chaque minute compte.
Oui, ces minutes, elles passent vraiment à toute vitesse. Alors le patient peut lui-même en perdre parce qu'il ne connaît pas les signes, il ne sait pas comment réagir, il hésite à appeler le SAMU parce qu'il considère que c'est pas si urgent que ça, alors que c'est pas vrai, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Et puis après, il y a toute la filière d'acheminement du patient à l'établissement de santé, l'accès à l'imagerie, l'accès aux spécialistes, tout ça conditionne les chances d'un bon pronostic pour le patient.
Donc ces deux messages essentiels au-delà de la prévention, comment reconnaître les symptômes, comment réagir face à un AVC Et quand on appelle le 15, très facilement, les médecins régulateurs peuvent reconnaître l'urgence et pas perdre de temps.
Ils sont formés à ça, hein, à reconnaître les signes.
Parce que c'est pas toujours facile dans la description de quelqu'un qui est affolé.
Ce n'est jamais facile parce que l'appelant est en général effectivement très inquiet. Tout ce qu'il souhaite, lui, c'est que des secours arrivent. Mais pour déclencher les secours, il faut savoir ce à quoi les médecins qui vont aller ou les ambulanciers qui vont aller au domicile ou sur les lieux de l'événement vont être confrontés. Donc l'assistant de régulation, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, les personnes qui répondent au téléphone, posent des questions. Qui êtes-vous? Quel est le numéro de téléphone auquel on peut vous rappeler? Et racontez-moi ce qui se passe. Le meilleur conseil qu'on puisse donner à quelqu'un qui appelle le SAMU, c'est de décrire ce qu'il voit et pas chercher à interpréter. Par contre, s'il pense que c'est un accident vasculaire cérébral, il faut qu'il dise « je crois que mon mari ou mon voisin a fait un accident vasculaire cérébral ». Les études montrent que chaque fois que le mot AVC avait été prononcé par l'appelant, dans 80% des cas, pas à chaque fois, 80% des cas, c'était bien un accident vasculaire cérébral. Et là, tout de suite, c'est le mot-clé, hein, donc la chaîne de secours s'engage à toute vitesse.
Oui, parce que quand on dit effectivement 2-3 heures, c'est le délai optimum, ça va vite. Parce qu'il faut, il y a l'appel, il y a la reconnaissance de l'urgence, il y a l'acheminement de l'ambulance du moyen, l'éventuel hélicoptère, tout ça, ça fait...
Il y a l'acheminement de l'ambulance qui peut être des pompiers ou une ambulance blanche, hein, d'une compagnie privée, qui va arriver au domicile, qui va faire une évaluation du patient. Ils ne viennent pas simplement mettre la personne sur un brancard et la transporter. Donc il y a une évaluation, un nouveau contact avec la régulation du SAMU. Il y a le temps de trajet pour aller vers l'établissement de santé. L'intérêt d'appeler le 15, c'est que, bon, ils vont organiser le transport, mais aussi ils vont prévenir l'établissement de santé où ils envoient le patient, que ce patient va arriver. Et donc c'est un patient qui arrive dans un service d'urgence en étant attendu. Et ça fait toute la différence. Bien évidemment, il est hors de question que ce soit un patient qui soit dans une file d'attente, comme on peut en voir assez régulièrement dans les services d'urgence.
Par contre, là, de toute façon, le début du traitement, ça sera à l'hôpital. C'est pas comme dans les urgences cardiaques où on peut commencer certains traitements pendant le transport. Là, c'est obligatoirement hôpital.
Oui. En interrogeant le patient ou en l'examinant, on peut pas savoir si c'est une artère bouchée ou une artère déchirée. Le seul examen qui permet de faire la différence entre les deux, c'est de faire un scanner ou mieux une IRM. Et ça, c'est pas dans les camions, c'est pas dans les ambulances, c'est pas dans les hélicos, c'est dans les hôpitaux. Ou les établissements de santé.
On va parler un peu des associations parce que tout au long de l'année, vous êtes aidé dans votre action par l'association AVC Tous Concernés qui a été créée, je crois, par un de vos patients girondins. Parlez-nous de cette association et de l'importance pour vous de ce relais associatif.
Alors, c'est une association très, très dynamique, présidée par Philippe Ménard, hein, qui a fait lui-même un accident vasculaire cérébral sévère, dont il s'est remis avec beaucoup de courage, qui a repris un petit peu ce flambeau. Alors, moi, ça faisait déjà un certain temps que je cherchais un ambassadeur de la cause des AVC, et j'ai trouvé plus qu'un ambassadeur, hein, j'ai trouvé un véritable leader qui sait à la fois monter des actions, des opérations de communication, et qui a vraiment une grande qualité pour ça, mais qui a aussi une grandeur d'âme et de personnalité qui lui permet de fédérer les énergies autour de lui. Et donc avec des actions qui sont répétées. Là, en 2018, il y avait une action dans chacun des 12 départements de la région Nouvelle-Aquitaine, avec 3 jours de présentation à chaque fois dans chaque département. Il y avait eu sur l'agglomération bordelaise les 10 jours de prévention avec beaucoup de conférences, la distribution d'appareils attention. Pour l'année à venir, on va renouveler, enfin j'y dis on parce que je suis aussi vice-président de cette association, on va renouveler une tournée des plages, mais en partant de la Bretagne jusqu'à Biarritz. Pour cet été, il va y avoir une tournée des stations de ski en Occitanie, il va y avoir une action en Guadeloupe. Enfin, il y a beaucoup d'actions et le chantier est immense et de toute façon, on n'arrivera jamais à faire tout ce qui peut être fait.
Mais les associations, enfin cette association en matière d'AVC, c'est en parler et faire passer des messages de prévention, sensibiliser.
L'objectif, c'est essentiellement faire connaître la maladie et apprendre aux gens quels sont les signes et comment réagir. Et puis, en insistant aussi sur l'hypertension et l'arythmie cardiaque, hein, puisque l'association dispose d'un bus, enfin d'un minibus, dans lequel on a installé aussi l'outil pour détecter l'arythmie cardiaque.
Ils ont aussi un rôle dans l'aide aux patients après l'accident
Assez peu. C'est une autre association qui est plutôt sur ce versant-là, hein, donc qui est l'aide aux patients, soutien aux familles, aux aidants, qui est France AVC, hein, qui est une fédération nationale avec des antennes départementales, et donc France AVC 33-47, et il y a la Dordogne aussi, je ne sais plus le chiffre. Bon, enfin, voilà,
34.
Il y a qui fait et qui fédère trois départements et qui est présidé par Paul Ramazeï.
Donc les associations, les patients peuvent aussi contacter, se connecter sur les sites des associations pour avoir des renseignements.
On trouve très rapidement avec tous les moteurs de recherche les sites et, voilà, donc, ou les mails de ces associations.
AVC tous concernés et France AVC. Donc demandez conseil à votre médecin qui saura vous dire si vous avez des facteurs de risque d'AVC, comment agir, comment vous faire surveiller et au moindre signe suspect pour vous ou pour votre entourage, souvenez-vous que le temps joue contre vous et que l'appel au 15 est urgent. Merci François René.
Merci à vous. À une prochaine fois.